pour les historiens qui travaillent sur l'imaginaire, il y a aussi les problèmes de la réalité. On ne peut pas évacuer les problèmes de la réalité justement parce que on se pose les problèmes de l'imaginaire. Il y a les deux, et les deux s'impliquent.
Box.
L'homme peut-il contrôler sa destinée? C'est la question à laquelle j'espère trouver une réponse.
Jukebox.
Des histoires en musique.
Oh, le futur est déjà écrit, il est irrévocable, on ne peut pas le changer.
Ah bon, Richardo.
À défaut de réinventer le futur, chaque samedi à 19h sur France Culture, Jukebox ressuscite le passé à travers une histoire mise en musique. Bonsoir à tous. En ces temps de vérité malmenée, Jukebox plongera ce soir dans l'obscurantisme de l'Europe, de la fin du Moyen-Âge et des temps modernes en explorant le phénomène de la sorcellerie. Sorciers, mais surtout sorcières, expression populaire de croyances occultes, victimes judiciaires et expiatoires d'un continent alors en proie aux épidémies et aux guerres, à la misogynie ambiante et aux divisions religieuses, autant de mots face auxquels les sorcières avaient constitué de parfaits boucs émissaires. Cette histoire, nous y reviendrons ce soir en compagnie d'une invitée, Céline Duchesnay, auteure de documentaires radiophoniques et d'un livre récemment publié sur la question, ce soir, Sorcière, la marque du diable. C'est un chemin creux et humide, emprunté depuis toujours par les habitants des hameaux voisins pour se rendre aux champs. Le passage quotidien des hommes, des troupeaux et des bêtes sauvages en malmène la trace. Et l'homme voûté sous sa charge de bois concentre toute son attention afin de ne pas perdre pied sur cette sente boueuse et glissante. Tandis que le chemin traverse un bois, il aperçoit soudain, à travers les troncs, une forme filée dans l'air. Compte tenu de sa taille, il pense d'abord à un héron cendré, mais le vol est bien trop rapide. Il laisse tomber à terre ses branchages et, s'essuyant le visage que la pluie matinale fait ruisseler, il cligne des yeux. Il tente de distinguer, de détailler cette forme grise et virevoltante, mais celle-ci ayant disparu, il recharge son fardeau et reprend sa route après s'être signé, l'air grave. Il ne parvient pas à chasser de son esprit ce songe inquiétant, cette forme humaine qu'il aurait juré voir évoluer dans les airs. Parvenu à l'orée du bois, devant la première maison du hameau, la masure de l'ancien forgeron, il s'arrête net de nouveau, lorsqu'il aperçoit devant la porte la veuve du forgeron, ses cheveux blancs, son corps fin, enveloppé d'une longue chasuble de grosses toiles grisâtres. Il la considère interdite, tant la similitude avec la forme est frappante. La vieille, elle, semble à bout de souffle, un balai à la main dans un nuage de terre battue. « C'est toi, lui lance-t-il, qui volais tantôt comme un oiseau à travers les arbres ?» Elle ne répond pas, mais il lui semble bien que ses mains de vieille femme étreignent son manche de bois. Et puis, tandis que le nuage de poussière se dissipe, la veuve éternue, 5 fois d'affilée, son corps secoué de violents spasmes. Abandonnant sur place son chargement, l'homme, lui, a déjà détalé.
Coming out of my head.
Je le vois arriver vers moi, je ne cours pas, je n'ai pas peur. Grosse mousson noire, emmène-moi, je suis prête à rencontrer le monstre ce soir. La chanteuse P.J. Harvey pour ce Meet the Monster 1995. Bonsoir Céline Duchesnay.
Bonsoir Amaury.
Les auditeurs de France Culture vous connaissent bien. Vous êtes membre du Cénacle hebdomadaire de Mauvais Genre de François Angelier. Vous êtes spécialiste érotisme et phénomènes étranges et vous produisez également à l'occasion des séries documentaires comme celle que vous aviez conduite en 2018 pour l'émission LSD. Quatre émissions consacrées justement aux sorcières et qui donnent lieu ces jours-ci à la parution chez Michel Lafon en coédition avec France Culture d'un livre, Les sorcières, une histoire de femmes. Alors, ces sorcières, Céline Duchesnay, lorsqu'on se penche à leur chevet, eh bien, on se rend compte qu'il est difficile d'en parler parce que on a beaucoup de traces de représentations artistiques ou folkloriques, mais on a très peu d'archives historiques. Pourquoi ?
Alors bah déjà parce que on parle de temps un petit peu anciens, donc il est toujours plus difficile de trouver des documents qui datent essentiellement donc des temps modernes, donc on est plutôt sur les 16e et 17e siècles, ça c'est la première raison. Mais l'autre raison aussi, c'est que les archives des procès de sorcellerie étaient très souvent brûlées en même temps que les victimes. C'était une deuxième mort, la première mort, la mort du sorcier ou de la sorcière, et la deuxième mort qui était une mort plus symbolique, ne plus laisser aucune trace. Donc c'est aussi pour ça que les archives ne sont pas toujours arrivé jusqu'à nous, en tout cas les procès.
Alors, des archives, en tout cas, vous en aviez retrouvé en 2018, c'était dans un coffre à Genève.
Pourquoi êtes-vous prisonnière ?
C'est pour obéir à justice.
Depuis quand êtes-vous prisonnière ?
J'ai été emprisonnée ce jour-ci après-midi.
N'est-il pas vrai que lorsque vous êtes allée rendre le linge que vous avez blanchi à ladite royaume, vous êtes entré dans la chambre où était Pernette sa fille et que vous lui avez dit « Votre fille se portera bien, je vous crie merci ».
J'avoue être entré dans la dite chambre et avoir dit que sa fille se porterait bien, mais je nie avoir crié merci.
N'avez-vous pas entendu parler les démons qui étaient dans le corps de la dite fille et qui ont dit en vous voyant « Voici la Michée, notre maîtresse ».
Non, je n'y ai pas entendu.
Les personnes qui étaient présentes dans la petite chambre ne vous ont-elles pas dit que vous deviez ôter les malins du corps de la dite fille ?
Oui, mais je leur ai répondu que je ne pouvais ce faire pour n'en avoir la puissance.
N'avez-vous pas frappé la dite fille sur le bras en parlant en italien aux dix démons ?
Non.
Sommez de dire la vérité.
Je l'ai dite.
Les voix des comédiens Elina Lovenson et Richard Boringer, extraits d'une des émissions que vous aviez produites en 2018 pour France Culture, Céline Duchesnay, des émissions qui étaient réalisées par Laurent Polleret. La lecture de l'interrogatoire d'une femme, on est le 4 mars 1652, c'est une certaine Michée Chaudron. Qui est-elle ?
Alors Michée Chaudron, on ne sait pas exactement quand est-ce qu'elle est née. On imagine qu'elle est née en 1602-1603. On sait qu'elle vient de Savoie, qu'elle est catholique, veuve. Elle a perdu un enfant. Elle est considérée comme une vieille femme. Elle a 50-60 ans à peu près, on ne sait pas exactement. Et elle exerce la profession de lavandière, donc elle lave le linge des autres. Elle est en périphérie de Genève parce qu'elle a immigré. Et elle vit de façon plus que modeste, parce que c'est un métier qui est évidemment un métier tout en bas de l'échelle sociale. Et elle a aussi une autre qualité, elle est, on pourrait dire qu'elle est guérisseuse, c'est-à-dire qu'elle fabrique une soupe qui est capable de soigner les gens. Donc voilà les informations que l'on a de Michée Chaudron. On a finalement pas mal d'informations sur elle parce que c'est une femme qui a été aussi accusée de paillardise. Et paillardise, à l'époque, ça voulait dire d'avoir des relations sexuelles avec quelqu'un sans être marié, ce qui était finalement assez banal. Donc on a en notre possession deux procès sur cette fameuse Michée Chaudron, ce qui fait qu'on a peut-être un peu plus d'informations que sur les autres sorcières.
Puisque les archives que vous avez retrouvées montrent qu'au début de cette année 1652, eh bien, on lui reproche plus que de la paillardise.
Oui, oui, oui. Là, c'est le deuxième procès qu'on a gardé d'elle. Et ce deuxième procès, ce sont des femmes qui l'accusent d'avoir bâillé le mal à deux jeunes filles. Et c'est pour ça qu'elle va donc être emprisonnée et qu'elle va se retrouver face à la justice.
En l'occurrence, bâiller le mal.
Jeter un mauvais sort, jeter le mauvais œil. En tout cas, les deux jeunes filles en question ne vont pas bien, elles sont malades.
Et donc, elle est traînée devant la justice.
Oui, elle est traînée devant la justice et il y a un procès qui va avoir lieu pendant un mois à peu près. Et la conclusion de ce procès, c'est que Michel Chaudron est bien une sorcière. Mais c'est une procédure qui, même si elle dure un mois, a plusieurs étapes.
Extrêmement longue. Hein. Elle est passée à la question de manière systématique, circulatoire. C'est épuisant comme procédure
oui,
pour elle.
Oui, d'autant que bon, il y a déjà ce principe des questions. Il faut rappeler aussi que Michel Chaudron est analphabète, donc elle se retrouve face à quelqu'un qui lui évidemment est lettré, donc il y a déjà un grand fossé, je dirais, culturel et social, bien sûr. Et puis, il faut surtout aussi rappeler qu'il y a d'autres étapes. Il y a l'étape de la torture avec l'estrapade pour Michel Chaudron, c'est-à-dire qu'on la jette suspendue par les bras et ça désarticule totalement le haut du corps. Donc, on peut imaginer que quand vous subissez ce genre de torture et qu'on vous pose des questions après, vous finissez de toute façon par avouer. Et l'autre étape aussi dont il faut parler, c'est ce qu'on appelle la recherche de la marque du diable, parce que on part du principe que si vous êtes une sorcière ou un sorcier, parce qu'il y avait aussi des hommes qui étaient inquiétés, c'est que vous portez en vous, sur votre corps, cette marque du diable. Le diable serait venu vous mordre ou vous toucher. Et il s'agit de retrouver donc cette partie du corps qui a été touchée par le diable. Et pour ça, on vous plante de grandes aiguilles dans le corps jusqu'à ce qu'on trouve une sorte de marque d'insensibilité, un endroit où lorsque l'on vous plante cette grande aiguille, mais de la profondeur quand même d'un doigt, vous ne réagissez pas. Et c'est la preuve que le diable est bien passé sur votre corps. Sachant que c'est marque d'insensibilité, on en a tous.
Et donc, pas d'écoulement de sang.
Pas d'écoulement de sang, et voilà, vous êtes sorcière. Watch it slip away.
Your promises, keeping the sorrow.
Chanté en 1972 par la chanteuse new-yorkaise Annie Peacock. Mais le cas de Michel Chaudron que nous évoquions juste avant correspond à la fin de la chasse aux sorcières. Revenons maintenant en amont de cette répression, alors que s'était développée la mythologie de la sorcellerie. Céline Duchesnay, de quoi parle-t-on lorsqu'on parle de sorcellerie, avant tout ?
Alors c'est ça qui est compliqué, parce qu'il y a plusieurs types de sorcellerie. Il y a la sorcière ou le sorcier, enfin c'est-à-dire la personne qui fricote avec la magie, qui peut utiliser de la magie blanche ou de la magie noire, et c'est quelque chose qui a toujours existé. Et puis il y a la sorcellerie démoniaque, et là on peut plus parler de mythes, parce que jusqu'à présent on n'a jamais pu assister, ou en tout cas toutes les personnes qui ont condamné ces sorciers et ces sorcières n'ont jamais assisté à des scènes de sabbat ou à des scènes de sorcellerie démoniaque. Et ça c'est une invention, c'est une construction qui a été faite par ceux qu'on appelle les démonologues. Donc les démonologues, ce sont des personnes qui traquent les sorcières et les sorciers démoniaques. Et cette littérature, en tout cas la démonologie, est très très marquée par une chose, c'est par le péché originel et par le fait que la femme est coupable, puisqu'elle est coupable depuis que Ève existe, et avec cette histoire de serpent et de pomme. Donc on est quand même dans quelque chose qui est très fortement marqué par la misogynie.
Alors, les femmes, on va y venir, mais il y a toujours un fond de réalité dans les visions fantasmées. Ces sorciers, ces sorcières, c'était souvent des gens qui maniaient une forme de médecine.
C'est vrai que parmi ceux qui ont été brûlés, il y a quand même une grande proportion, je dirais, de gens qui étaient plutôt du côté de la médecine. Mais qu'est-ce que ça veut dire, la médecine dans les temps modernes? Donc des gens qui utilisaient des plantes ou des gens qui utilisaient de la magie. Mais la magie n'a jamais été absente des campagnes et des villes, en sachant qu'à l'époque, on est sur des périodes où la population européenne est essentiellement rurale. Mais je dirais que on peut accuser son voisin d'être sorcier, parce que peut-être qu'il y a une vache qui meurt dans un champ, ou il y a un enfant qui meurt en bas âge. Je dirais qu'avant toute chose, les histoires de sorcellerie, ce sont des histoires de jalousie, de paranoïa, de vengeance, de règlement de compte. Enfin, c'est toutes les jolies mesquineries de la nature humaine qu'on peut retrouver aussi dans la sorcellerie.
Alors, les plantes, vous en parliez, on est à une époque où la médecine est très peu développée, et on a dans cette France et dans cette Europe encore très largement rurale des guérisseurs, des rebouteux qui connaissent les plantes, qui savent fabriquer des décoctions, des onguents. Est-ce que c'est dans ce savoir détenu par quelques-uns, ces guérisseurs, ces rebouteux, qu'on trouve ceux qu'on accusera plus tard de sorcellerie?
Je crois que les chiffres parlent en effet. On va voir que parmi ceux qui sont essentiellement accusés de crimes de sorcellerie, donc il y a quand même un immense pourcentage de femmes, on est sur 80%, et que parmi cette population féminine, beaucoup sont de vieilles femmes, et beaucoup aussi sont des sages-femmes. Donc c'est pour ça qu'on a eu tendance aussi à les accuser de sorcellerie. Là aussi, la réalité de la vie parle d'elle-même. Quand un enfant naît, il y a quand même un enfant sur quatre qui meurt avant l'âge de 1 ans. Non. Donc, même chose, votre enfant meurt, c'est peut-être tout simplement parce que la mortalité est très forte à l'époque, mais c'est peut-être aussi parce que quelqu'un lui a jeté un mauvais sort. Et comme la population des sages-femmes était essentiellement des femmes, il s'avère aussi qu'on s'est retrouvé avec beaucoup de sorcières dans les bûchers. Mais surtout, ne pas oublier que nous sommes quand même dans une société extrêmement misogyne, et que la religion aussi est très misogyne.
On va y venir, mais juste encore d'un mot sur la médecine. Il faut se souvenir qu'à cette époque, on en était encore plus ou moins aux conceptions médicales de l'Antiquité, le corps régi par des humeurs, hein, le chaud, le froid, le sec, l'humide, tout ça restait quand même assez largement mystérieux, et entre cette médecine un peu archaïque et le fantasme de la magie, il n'y a qu'un pas à sauter.
Oui, en sachant qu'il y avait des choses qui pouvaient être aussi assez justes après dans cette médecine, hein. Il ne s'agit pas de dire qu'après la médecine a été meilleure, enfin en tout cas la réalité.
C'était l'époque des saignées quand même.
Oui, puis la réalité c'est qu'on meurt quand même moins en couche aujourd'hui, et les enfants meurent moins qu'ils ne mouraient à l'époque, donc il ne s'agit pas de dire que c'était mieux avant. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que le corps des femmes était vraiment vu comme un corps qui était à l'opposé de celui des hommes, donc le corps des femmes humide, le corps des hommes sec, et il y avait quelque chose qui était lié à une forme d'obscurantisme et de maléfice, parce que ces corps humides, le corps de la femme en soi, à l'époque, était perçu comme quelque chose de négatif.
C'est le moment, allons, rapide, tournons le chaudron, versons-y en cercle les puissants poisons, sœurs du destin à l'œuvre, déjà l'eau fume, crépite et mousse. Toi, crapaud vénéneux qui suce l'aconite, toi, ronce, toi, racine arrachée au crépuscule, va, cuit et bouillonne dans le chaudron infernal. Le cœur des sorcières ouvrant l'acte 3 de Macbeth, l'opéra de Verdi d'après Shakespeare, des sorcières qui, réunies dans une caverne, préparent alors des philtres à l'attention du général sanguinaire et régicide. Venons-en, Céline Duchesnay, au sabbat. Ces étranges cérémonies nocturnes, à quoi ça ressemble? Qu'est-ce qu'on en dit? Qu'est-ce qu'on en raconte? À quoi? Cette fin du Moyen-Âge, c'est à cette époque-là où ça se développe?
Personne n'a jamais assisté à un sabbat. C'est un petit peu ça le problème.
Pour cause.
Donc, et pour cause, parce que c'est une invention, même si derrière ce mot et derrière les pratiques qu'on décrit, il y a des mythes beaucoup plus anciens, bien sûr. Mais alors le sabbat, c'est tout simplement une sorte de messe à l'envers, de messe noire. Donc la réunion d'un certain nombre de personnes qui se retrouvent la nuit, qui généralement se retrouvent dans un lieu isolé, qui peuvent arriver dans ce lieu isolé en volant ou grâce à un balai, et qui se réunissent pour faire tout un tas de pratiques évidemment condamnables et condamnées, à savoir des copulations, des orgies, du cannibalisme. Il y a cette histoire du chaudron dans lequel on pourrait mettre des enfants mort-nés, par exemple. Donc voilà, je dirais les
mort-nés parce que non baptisés.
Et parce que non baptisés, donc je dirais cannibalisme, orgies et puis pratiques sexuelles déviantes. Tout ce qui est interdit.
Le balai, la figure du balai, elle apparaît quand et pourquoi on sait ?
On ne sait pas trop. Alors, il y a toujours eu, de toute façon, c'est ça qui est compliqué avec les sorcières, c'est qu'il y a beaucoup de fantasmes, mais en même temps, il y a de très très anciennes traditions qui arrivent vraiment sous forme de bribes jusqu'à nous. Le balai, enfin l'histoire de la personne qui vole dans les airs, ça peut aussi être rattaché, par exemple, à toutes les pratiques de chamanisme. C'est Carlo Ginzburg, très grand historien italien, qui a travaillé là-dessus et qui a fait un parallèle entre les deux. Donc, je dirais que le principe de sortir de son son corps et de voler pour aller dans un autre endroit n'est pas complètement étranger à la culture européenne. En tout cas, c'est ce que Carl Ginzburg a montré. Mais le ballet, on parlait aussi à un moment d'onguents, qu'on mettait un onguent sur le ballet pour pouvoir après s'élever dans les airs et puis voler. Et puis, c'est vrai que le ballet, il y a quelque chose d'assez phallique aussi là-dedans qui peut-être aussi renvoyer à tous ces fantasmes sexuels.
Alors, ces fantasmes sexuels, parce que ces sabbats sont fréquentés essentiellement par des femmes.
Oui, et puis elles vont embrasser, par exemple, les fesses du diable. Donc, c'est vraiment le principe de l'inversion. C'est-à-dire, plutôt que de faire une messe catholique, là, tout est mis à l'envers et tout est dévoyé et détourné.
Alors, on est au cœur de la problématique et des fantasmes exploités par le monde de la sorcellerie. C'est quand même la misogynie incroyable qui régit l'époque.
Oui, et qui, je ne sais pas de quand date la misogynie, mais qui est là depuis la nuit des temps. Alors, je me suis beaucoup posé la question de savoir pourquoi. C'est sûr que à partir du moment où Ève est celle qui a croqué dans la pomme, tout ce qui en découle fait que de toute façon, les femmes dans cette société sont des êtres suspects.
Suspects, notamment quand elles sont vieilles, quand elles ont survécu à un ou plusieurs maris qui, eux, ont décédé pour diverses raisons. Et c'est là où cette époque de la fin du Moyen-Âge ou du début des temps modernes, où on commence à se méfier des vieilles femmes, des vieilles veuves.
Oui, parce que ce soit à l'époque des temps modernes ou aujourd'hui, les femmes survivent très souvent plus à leur mari, donc elles peuvent avoir à leur actif peut-être 1, 2, 3, 4 maris dans ces cas-là. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que cette vieille dame-là soit toujours là alors que tous ces hommes sont morts? Suspect.
Les femmes et leur sexualité, écoutons un sujet Michel Perrault.
Elles pratiquent aussi une sexualité subversive de ce que doit être une bonne sexualité féminine. Les vieilles sorcières, car il y a beaucoup de vieilles sorcières, eh ben elles font l'amour à un âge où elles ne devraient plus le faire. Car il est considéré que, après la ménopause, les femmes doivent se retirer du champ de l'amour. Et puis aussi, elles ont des positions qui ne sont pas du tout normales. La position normale, selon l'Église, c'est les femmes dessous, les hommes dessus, ce qu'on appellera plus tard la position du missionnaire. Les sorcières, elles attrapent les hommes par derrière, ou bien elles les chevauchent. Alors ça, une femme qui chevauche un homme, c'est tout à fait mal vu par l'Église. C'est vraiment un acte de sorcière. Et de ce point de vue-là, les sorcières se situent du côté de Lilith, qui, dans la tradition, a été la première femme d'Adam. Adam aurait eu une première femme et elle l'aurait quitté. Lilith aurait quitté Adam justement parce qu'il refusait d'être monté par elle. Naturellement, tout ça, c'est la tradition du Moyen-Âge et de tout ce qu'on raconte. Donc, il y a dans tout cela une dimension érotique essentielle. Les sorcières incarnent le désordre des sens.
France Culture, Jukebox, ce soir, une histoire des sorcières, du ballet.
We'll be right back.
J'ai une sorcière à mes trousses, tu ne vois pas que je suis mort de peur, j'entends sa voix qui crie, qu'ai-je donc bien pu faire pour qu'une sorcière sans souci voie la sorcière à mes trousses. 1971, le groupe espagnol La Llave pour cette bruja, cette sorcière, reprise du hit psychédélique des Allemands du groupe The Rattles, sorti l'année précédente. Céline Duchesnay, les sorciers, les sorcières, on les connaît principalement à travers la répression dont ils et surtout elles ont donc fait l'objet. Quand est-ce que cette répression, cette chasse aux sorcières débute véritablement ?
Alors elle débute véritablement, je dirais, dans les années 1560, je dirais sur ce siècle-là. Mais il y a quand même eu une première période à la toute fin du Moyen-Âge, enfin quand même en 1420-1440, mais là, dans les marches alpines, donc au niveau du duché de Savoie. Et là, vraiment, la grande période, c'est 16e-17e siècle.
Et avant, qu'on songe à Jeanne d'Arc, passée sur le bûcher en 1431, j'ai révisé mes notes, elle n'était pas formellement accusée de sorcier. Mais enfin, on voit bien que...
Les bûchers existaient déjà.
Voilà.
Oui, voilà. Ouais. Les bûchers existaient déjà. Mais vraiment, la chasse aux sorcières, ce n'est quand même pas le Moyen-Âge, c'est les temps modernes, donc 16e, 17e.
Et alors, où est-ce que ça se concentre ?
On pourrait dire qu'il y a une sorte d'axe qui part, je dirais, du nord des Alpes et qui remonte comme ça tout au long de l'Allemagne, qui évidemment n'existait pas à l'époque. C'était le Saint-Empire romain germanique. Donc on pourrait dire le nord de l'actuelle Italie, tout le Saint-Empire romain germanique. Ça, ce serait le grand axe. Mais vous avez aussi d'autres foyers de sorcellerie. Il y en avait en Écosse, il y en a eu au Pays Basque, il y en a eu en Pologne. Voilà. Mais quand même, cet axe était assez principal. Et en France, bien sûr.
Et cet axe, il recoupe notamment les zones de friction entre, puisque la réforme est en train de passer par là, entre le monde majoritairement catholique et puis les églises protestantes qui se développent plus à l'est.
Oui, donc c'est vraiment une ligne de fracture, mais la sorcellerie ne correspond ni au protestantisme ni au catholicisme, ça touche absolument toutes les religions à ce moment-là.
Mais est-ce que ces répressions ont à voir avec une forme de lutte d'influence des églises qui ont besoin d'asseoir leur autorité ?
Oui, c'est sûr que c'est un moment où l'Église ne va pas spécialement bien. La papauté est quand même sortie très affaiblie du grand schisme. Alors là, on est toujours au Moyen-Âge, hein, c'est 1378-1417. Et elle est vraiment à un moment où elle vit une grande crise dans son histoire. Donc après, c'est le principe du bouc émissaire. Il est toujours plus facile d'aller mieux quand vous pensez avoir trouvé le responsable de tous les maux.
Les procès, les instructions se multiplient alors à travers l'Europe.
Oui.
Par qui sont-ils conduits ?
Alors là aussi, c'est compliqué parce que ce sont des tribunaux qui peuvent être ecclésiastiques, ce sont des tribunaux qui sont aussi laïques pour la plupart et parfois ils sont mixtes. Mais même si la chose a été lancée par l'Église, les tribunaux, après, quand on pense par exemple au cas de Michel Chaudron, le tribunal, ce sont des laïcs, il n'y a plus rien à voir avec l'Église.
Cette Michel Chaudron à Genève en 1652, elle n'avoue pas, c'est ça ? Et donc dans ces cas-là, le recours systématique, presque, c'est la torture. Tu vas bien finir par avouer.
Et on finit toujours par avouer, ouais. À partir du moment où on est torturé. Donc oui, c'est vrai que la plupart, enfin c'est pas la plupart, mais quand même une très grande partie des procès finissent par un bûcher, parce qu'on sait ce que vaut la parole sous la torture. On avoue, on n'a pas le choix.
Le feu purificateur.
Shadows. glasses on wooden doors. If you float, you burn. Loose talk around tables. Abandon all reason. Avoid all eye contact.
Une attaque de panique volant à basse altitude, brûler la sorcière, nous savons où tu habites, des croix rouges sur des portes en bois, et si vous flottez, vous brûlez. Le groupe Radiohead pour ce Burn the Witch sorti en 2016. Céline Duchesnay, si vous flottez, vous brûlez, chante Thom Yorke. C'était de fait une manière, pensaient certains, de repérer les sorcières, c'est la fameuse preuve par l'eau, racontez-nous.
Oui, la preuve par l'eau, c'est que il faut partir du principe que le corps de la sorcière, par nature, est monstrueux, il n'est pas normal, il n'est pas comme les autres, c'est pour ça qu'il vole, il est donc plus léger. Et donc si le corps est plus léger, il flotte. Donc si vous jetez par exemple une sorcière dans l'eau, elle va flotter, tandis que si elle n'est pas sorcière, elle va couler. Alors la réponse pour celle qui était suspectée d'être sorcière et qui coule, ça restera quand même la mort puisqu'elle mourra noyée, mais on aura quand même la preuve que finalement cette femme n'était pas une sorcière.
Et donc des preuves, on ne cesse d'en chercher. On parlait tout à l'heure des aiguilles qu'on enfonçait pour voir si le sang coulait, on cherche les marques du démon. Et puis la chasse aux sorcières, ça mobilise d'ailleurs des foules infinies. Il y a tout un tas de gens qui à travers l'Europe se disent tout d'un coup, tiens, moi je suis à même de pouvoir débusquer des sorciers, des sorcières, qu'on voit pérégriner à travers le continent, aller de village en village pour se poser comme juge. Et puis, il y a une multiplication d'ouvrages qui sont alors dédiés à cette chasse aux sorcières. Le plus fameux d'entre eux, que vous citez notamment Céline dans votre livre, c'est le Maleus Maleficarum.
Le marteau des sorcières, donc c'est un livre qui a été imprimé vers 1486, qui a été écrit en latin, évidemment, par deux frères dominicains, Henri Incitoris et Jacques Sprenger. Et alors, le principe du Maleus Maleficarum, c'est une sorte de manuel qui a d'abord été diffusé parce que c'est le moment aussi où l'imprimerie fait son essor, donc il y a eu une grande diffusion de cet ouvrage. Et il en existait un petit format de poche qui était bien pratique parce que vous pouviez en effet vous promener comme ça avec votre Maleus. Et qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors, il y a toute une partie, notamment avec des questions et des réponses, qui vous permet d'avoir une sorte de procédure comme ça pour savoir si la personne qui est en face de vous fait partie de la sorcellerie démoniaque.
Et donc
question-réponse.
Comment les sorcières se transportent d'un endroit à un autre? Comment elles savent enlever aux hommes le membre viril? Ou bien encore le titre du chapitre 17 de la purification canonique et spécialement de l'épreuve du fer rouge réclamé par les sorcières. Et cet ouvrage, je crois que c'est un best-seller. Il se diffuse...
Oui, c'est le triste best-seller de son époque puisque encore aujourd'hui, on en conserve de par le monde 75 exemplaires. Et il faut quand même rappeler que c'est un ouvrage qui date de 1486. Donc ça montre à quel point ce livre a été diffusé.
Largement diffusé parce que l'époque est confuse et on en vient à ce point qui est que dans le fond ces sorcières elles sont les boucs émissaires des maux de l'époque, les épidémies, les guerres, les disettes, la peste, la lèpre, Il faut bien des responsables à tous ces maux.
Oui, alors il y a un philosophe qui s'appelle Jacob Rogozinski qui parle justement de cette théorie. Enfin, c'est le principe du pouc émissaire de toute façon. En effet, l'époque est confuse, mais les sorcières sont attaquées comme avant. Il y a pu avoir aussi les lépreux, il y a pu avoir les templiers, les juifs, bien sûr, les vaudois. Donc je crois que le principe d'une société qui va mal aussi a toujours tendance à essayer de trouver une explication et à frapper sur ceux qui sont les plus faibles ou alors ceux qui sont différents. L'histoire se reproduit beaucoup.
De Mentira, la sorcière menteuse par le pianiste brésilien et figure de la bossa nova, João Donato, une chanson écrite avec Gilberto Gil et parue en 1975. Céline Duchesnay, ce phénomène des sorcières, il touche, on se concentre ce soir sur l'Europe, mais est-ce qu'il a aussi touché d'autres parties du monde dans ces années-là ?
Peu, je crois qu'on est quand même essentiellement sur un phénomène européen, à partir du moment où on parle de la sorcellerie démoniaque. Alors évidemment, je pense que tout le monde a aussi en tête les sorcières de Salem, qui arrivent un petit peu plus tard, puisqu'on est sur les années 1692-93, mais on est déjà sur un autre continent.
Non, aux États-Unis.
Aux États-Unis, et on n'est pas du tout dans les mêmes chiffres. Il y a une centaine de personnes qui ont été arrêtées, une vingtaine qui ont été pendues, mais ça n'a pas l'ampleur que ça a eu en Europe.
Et cette histoire des sorcières de Salem, dans le Massachusetts, elle intervient alors même que l'Europe met fin à cette chasse aux sorcières.
Oui, c'est pour ça que je pense qu'il faut les distinguer.
Comment et pourquoi ça se passe, cette interruption des poursuites en Europe ?
Ce qui est intéressant, c'est que finalement, on se rend compte qu'on ne sait pas trop pourquoi est-ce que tout à coup, ça s'enflamme complètement et pourquoi est-ce que ça s'arrête. Dans mes documentaires, j'ai posé la question à des historiens. Donc, il y a une forme d'essoufflement aussi qui fait qu'au bout d'un moment, je crois que la société commence à en avoir assez de cette espèce d'hystérie collective. Et quand je parle de la société, évidemment, je parle plus des élites, des personnes dont on en entendait la voix. Je crois qu'il y a eu une forme aussi de lassitude à ce moment-là. Mais une des causes principales, c'est le développement de l'État royal centralisé. Donc, le pouvoir accroît son contrôle et met au pas les mouvements populaires, dont les chasses aux sorcières sont un des aspects. Mais toujours est-il qu'il y a eu un édit en juillet 1682, qui a été décrété par Louis XIV, qui met fin au bûcher. En France, on va arrêter de brûler les sorcières, ce qui ne veut pas dire qu'elles ne vont pas arrêter d'exister. Il y aura toujours des personnes qui seront là pour exercer une forme de magie, mais en tout cas, on ne les brûle plus.
Par la suite, les sorcières, la sorcellerie fait évidemment l'objet de nombreuses célébrations, notamment artistiques. On pense à une célèbre série de tableaux de Goya à la toute fin du XVIIIe siècle. Et puis, cette figure de la sorcière, elle est réhabilitée après en France par un historien, c'est Jules Michelet.
Oui, alors je crois qu'il y a un vrai basculement à ce moment-là, c'est-à-dire que jusqu'à présent, la sorcière, enfin si on reste concentré sur les femmes, c'est une figure négative, une figure laide, inquiétante, effrayante, démoniaque, bien sûr. Et avec Jules Michelet, les choses changent, puisqu'en 1862, il sort un livre qui s'appelle La sorcière et qui va être une réhabilitation totale de ce personnage. C'est-à-dire que là où elle était néfaste, horrible et négative, il la transforme en une jeune femme belle, romantique, rebelle. Et c'est vraiment grâce à Michelet qu'aujourd'hui, on a, que ce soit dans la littérature ou dans les arts, une image beaucoup plus positive de la sorcière.
When I look out my window, so many sights to see. And when I look in my window, so many different people to be, that it's strange, yeah, so strange. You got to pick up every stitch, Lordy. You got to pick up every stitch. You got to pick up every stitch. Yeah. Must be the season of the witch. Must be the season of the witch. Must be the season of the witch. When I look over my shoulder, what in the world do you think I see? Some other cat looking over his shoulder, looking over his shoulder at me. And he's strange, yeah. Sure he's strange. You got to pick up every stitch. You got to pick up every stitch. Oh, no, yeah. Oh, oh, must be the season of the witch. Oh, oh, must be the season of the witch. Talking about the witch now, y'all. You better hear what I say every day. Listen to me go my way now. When I look in my window, what do you think I see? And when I look out my window, so many different people to be, yeah.
it's strange. Sure, it's strange. You got to pick up every stitch now, y'all. You gotta pick up every stitch, yeah, yeah. You got to pick up every stitch. Oh, no. Yeah, 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 yeah. Must be the season of the witch.
Season of the Witch, la saison de la sorcière, par le chanteur américain Lou Rawls, sorti en 1969. Alors Céline Duchesnay, aujourd'hui, l'utilisation du qualificatif sorcière se multiplie à tort ou à raison. C'est notamment la fin des années 60 où aux États-Unis certains mouvements féministes se sont mis à utiliser ce qualificatif de sorcière pour justifier l'oppression dont les femmes font l'objet. Rappelons tout de même qu'il y a encore des persécutions de sorcières et des bûchers aujourd'hui dans le monde, pas de manière très répandue heureusement, mais citons ici la Papouasie-Nouvelle-Guinée, juste au nord de l'Australie, où selon l'ONU, il y aura encore 200 femmes assassinées au nom de crimes de sorcellerie. La sorcellerie, c'est un creuset à fantasmes et à dénonciations diverses aujourd'hui.
C'est toujours un peu compliqué d'utiliser le terme de sorcière comme ça dans le monde entier. C'est sûr que nous, là, nous avons parlé des sorcières démoniaques, donc c'est un phénomène qui est inscrit dans une période historique très précise. Aujourd'hui, de par le monde, qui sont les sorcières, il faudrait voir peut-être après dans chaque société dans quel contexte culturel elles ont pu grandir ou évoluer, est-ce qu'on peut leur reprocher. Moi je crois quand même que ce terme de sorcière est peut-être aussi un peu pratique, dans le sens où il permet de donner une explication à des phénomènes qu'on n'arrive pas à expliquer, des morts soudaines ou des disparitions. Et la sorcière, c'est peut-être celle qui nous échappe, celle qui nous permet d'expliquer l'inexplicable.
Merci Céline Duchesnay. On se quitte sur un dernier morceau et une autre forme d'exorcisme. On va faire un pas de côté. L'exorcisme opéré dans le sud de l'Italie, notamment dans les Pouilles, sur des femmes qui, jadis mordues par des tarentules ou autres araignées, étaient saisies de maux étranges, frappées, disait-on, de folie ou de nymphomanie, confère la misogynie qu'on développait aujourd'hui, et qui, ces femmes étant stigmatisées, devaient danser des heures durant sur des tarentelles et des pizzicas, cette histoire méconnue qu'on appelle le tarentisme. Un label récent français, Flea, y consacre un livre vinyle qui sortira fin novembre prochain et sur lequel on trouve notamment cette Pizzica Tarantata, enregistrée en 1959 par un ethnomusicologue italien et remixée ici par l'artiste danois Ouffé.
Thank you.
Extrait du projet Tarantismo, ce remix doux fait pour le label Flea, apparaître le 27 novembre. On vous mettra tout ça sur la page de Jukebox. Merci Céline Duchesnay.
Merci à vous Amaury.
Les 4 épisodes de votre série documentaire sont à réécouter sur le site de France Culture. On vous mettra également les liens. Quant au livre qui en est tiré, il est donc paru ces derniers jours, publié par Michel Lafon et les éditions de France Culture. Toutes ces informations, vous les retrouvez sur la page de Jukebox, depuis laquelle vous pouvez réécouter et télécharger cette émission. Une émission préparée avec Antoine Villos de la discothèque. À la prise de son ce soir, c'était Valérie Lavalard. Agnès Catou à la réalisation. Au micro, Amaury Chardot. À samedi, 19h, pour un prochain Jukebox.